qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle nous éclaire, elle nous dirige. Elle sépare en nous. Elle a une puissance extraordinaire. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, première épître de Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1er, rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez point obtenu, pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Voilà, je rappelle que cette épître, cette lettre que Pierre a envoyée, il l'a envoyée à des destinataires qui étaient persécutés, dispersés dans différentes régions. Ils étaient là où ils se trouvaient comme les étrangers, ils avaient tout perdu, maison, bien, famille pour certains, et ils se retrouvaient eh bien isolés pour certains, et Pierre leur envoie cette lettre qu'il devait faire certainement circuler à l'époque, pour les encourager. Mais quand nous regardons avec attention, ce n'est pas un encouragement simplement humain, un encouragement de courte durée. Mais Pierre, quand il leur envoie cette lettre, il les invite à s'attacher et à regarder aux choses essentielles, aux choses éternelles, à Christ, à leur héritage, à leur vocation. Vous savez que quand nous repensons à ce que nous avons reçu de la part du Seigneur, quand nous repensons à ce que nous sommes en Christ, il y a de quoi louer le Seigneur sans arrêt. Sans arrêt. Louer notre Dieu, notre merveilleux Sauveur. L'homme regarde toujours à ce qui lui manque, à ce qu'il voudrait avoir, à ce qu'il voudrait être, et il en oublie quelque part, eh bien, ce qu'il a reçu, ce qu'il est, et les ressources, les dons, la bénédiction que nous avons en Christ. Il nous faut repasser dans notre cœur les bontés de l'Éternel. Il nous faut repasser dans notre cœur, eh bien, ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Et ce texte termine en disant, « Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » C'est pas rien la miséricorde de Dieu, et nous l'avons obtenue par grâce. Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a sauvés, il nous a racheté un grand prix. Et je crois que ça, ça vaut plus que tout le reste. Et l'apôtre Pierre essaie d'encourager ses chrétiens à regarder à Christ. Alors dans notre texte, ce sera une introduction ce soir, on continuera parce qu'il y a tellement de choses d'enseignements profonds, riches dans ce texte, dans ces dix versets, que nous aurons matière à y revenir et nous attarder sur bien des enseignements qui nous font du bien, qui approfondissent aussi notre foi, parce que la foi vient de la parole de Dieu, la foi vient de ce qui est écrit, la foi vient de ce que nous avons en Christ. C'est pas de nous-mêmes, c'est pas un sentiment, la foi, c'est pas une circonstance bénie, même pas un exaucement. C'est pas ça la foi. La foi, elle vient de la parole de Dieu, la parole écrite, de savoir qui est Dieu, de savoir ce qu'il a fait pour nous, de savoir ce que nous avons reçu de lui en nous. C'est ça, la foi vient de là. La foi, c'est le regard sur Christ. Si nous regardons à nous-mêmes, nous sommes complètement découragés. Si nous regardons autour de nous, il y a de quoi être découragé. Mais si nous regardons à Christ, il y a de quoi être fortifié dans notre être intérieur. Alors dans notre texte, il y a plusieurs affirmations sur l'identité de Christ, sur notre propre identité et sur l'identité de l'Église, nous le verrons. Nous le verrons un petit peu plus tard. Commençons par les premiers versets. Il y a des verbes qui sont là et ces verbes sont importants. Dans les premiers versets, il y a le verbe « rejeter »,« désirer » et « croître ». Et ensuite, il y a « approcher »,« édifier »,« former » et « offrir ». Et nous voyons que chaque verbe a son sens. Dans notre vie, il y a cette chronologie aussi, afin que nous puissions croître et être bénis en Christ. Il y a d'abord des choses à rejeter, et nous le savons. Il y a en nous des choses qui ne sont pas bonnes et il faut les rejeter. Les rejeter. Et tout au long de l'Écriture, il y a dans toutes les lettres, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, Jean, Jacques, dans l'Épître aux Hébreux, eh bien nous enseigne à rejeter, à nous abstenir, à éviter, à nous décharger, à délaisser, etc. Il y a des choses qui empoisonnent nos vies. Il y a des choses qui parasitent nos cœurs et nous avons besoin, et l'exhortation c'est de les rejeter, de les balayer, afin que eh bien, nous puissions aller plus loin. Par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et verset 1er, il est dit « Rejetons donc tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Rejetons. » Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 5, faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, etc. Faites mourir, rejetez, déchargez-vous, évitez. Il faut obéir à la parole de Dieu. Et là, je crois que nous sommes tous logés à la même enseigne. Eh bien, nous avons besoin d'obéir à cette parole. Il y a une telle insistance dans les épîtres, c'est d'une part que ces choses sont graves, mais également qu'elles s'accrochent si facilement à nous selon les circonstances dans lesquelles nous sommes placés. Si les circonstances sont défavorables, alors eh bien, il y a des choses qui vont s'accrocher à nous, mais nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de son secours, nous avons besoin du secours du Saint-Esprit. Ces choses parasitent nos cœurs et nous empêchent de désirer, d'avoir soif des choses d'en haut, des choses qui viennent de Dieu. Elles nous court-circuitent comme les mauvaises herbes dans un jardin. Ces mauvaises herbes, on ne les a pas plantées, mais elles viennent toutes seules. Et elles poussent plus vite que les bonnes plantes. Alors ça, c'est ces mauvaises herbes, qui les a plantées? Elles sont là, elles viennent, elles poussent à une rapidité, il pleut, il fait soleil, hop, les mauvaises herbes, elles arrivent. Et pourtant, il faut les enlever, il faut les déraciner, il faut les tailler, il faut, etc., pour que les bonnes plantes puissent elles-mêmes grandir. Que Dieu nous aide. Ensuite, il y a le verbe « désirer ». Désirer est l'image qui est prise dans ce texte comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. Désirer. Je pense que nous avons tous vu et nous voyons et nous verrons des bébés qui désirent le lait. Vous savez, on peut essayer de les distraire, on peut essayer de les faire changer d'avis, mais il y a une persistance, une insistance Et ils savent, tout petits, nous faire savoir qu'ils veulent du lait. Ils désirent le lait. Et voyez, il faut que nos cœurs aussi désirent les choses de Dieu, les choses d'en haut. Il y a bien des choses qui sont capables de nous distraire, mais il faut toujours se recentrer sur l'essentiel et désirer le lait spirituel et pur de la parole de Dieu. Voilà ce que Pierre leur dit dans cette lettre. Il dit à ses frères et sœurs persécutés, en paraphrasant, quoi. Il leur dit, mais vous avez des circonstances difficiles. Vous traversez une épreuve difficile pour ceux qui ont tout perdu. Mais ne vous laissez pas aller à des mauvais désirs. Ne vous laissez pas aller à des mauvaises pensées parce que vous vous trouvez dans des circonstances difficiles. Mais l'apôtre Pierre veut les centrer sur les choses d'en haut, sur les choses de l'esprit. Il veut les amener à regarder, à désirer les choses d'en haut. Et c'est seulement ce qui vient de Dieu qui peut nous fortifier. Nos pensées ne nous fortifieront jamais, au contraire, elles nous abattent. Mais la parole de Dieu, le Saint-Esprit, est capable de nous renouveler, de nous fortifier, de nous encourager, de nous éclairer, de nous guider. Amen. C'est la parole de Dieu, elle est puissante. Elle a un effet tellement puissant quand elle trouve des cœurs ouverts qui ont même un petit peu de foi. Ah, moi j'aimerais avoir une grande foi. Jésus dit non, non. Un petit peu de foi comme un grain de sénévé, ça suffit pour déplacer même une montagne. Donc, il ne nous demande pas une grande foi, mais il nous demande un cœur ouvert, un cœur sensible, un cœur pur qui désire ces choses pour les avoir, nous fortifier, nous établir et être en bénédiction pour d'autres. Même dans les circonstances difficiles, eh bien, l'apôtre Pierre les encourage à recevoir du Seigneur ce lait spirituel et pur, à recevoir les choses d'en haut pour qu'ils soient des moyens de bénédiction, même dans des circonstances extrêmes. C'est dire combien nous pouvons être encouragés les uns et les autres et dire « Seigneur, moi aussi je traverse des moments difficiles, mais j'ai besoin de recentrer mes regards, mon cœur sur Christ, sur la parole, afin de recevoir de lui et rejeter tout ce qui parasite, qui court-circuite, qui empêche, eh bien, ces choses d'en haut de descendre dans mon cœur. » L'apôtre Paul exhortait à désirer, dans Colossiens chapitre 3, verset 1er, il est dit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. » Dans 1 Corinthiens 14, verset 1er, recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels et surtout à celui de prophétie. Aspirez, désirez ardemment. Jésus dira dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez pas de tout le reste, mais inquiétez-vous du royaume de Dieu, de la justice de Dieu. Inquiétez-vous que Christ soit élevé, soit glorifié, et le reste, Dieu pourvoit. Merci Seigneur, il pourvoit. Et enfin, afin que vous croissiez. Est-ce que c'est nous qui avons besoin de grandir ? Oui, d'un côté, mais c'est Christ qui doit grandir en nous. Et Jean le dira dans chapitre 3 de l'évangile de Jean, verset 36, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Il faut que Christ grandisse en nous. C'est tellement formidable. Si Christ prend un petit peu plus de place ce soir, eh bien c'est grandiose. Parce que nous savons qui est Christ, nous savons l'autorité qu'il a, nous savons la puissance, l'amour, le fruit qui est attaché à sa personne. Et nous savons que si Christ grandit un petit peu ce soir dans nos vies, eh bien il y aura aussi de grandes bénédictions. Alors comment pouvons-nous diminuer ? Comment puis-je diminuer afin que Christ croisse ? Comment on peut faire pour diminuer ? Est-ce que quelqu'un aurait diminué ? Comment je peux diminuer afin que Christ grandisse ? Alors que dans ce monde, on veut grandir. Dans ce monde, on recherche la gloire. Dans ce monde, on recherche la notoriété, le succès. On veut montrer que l'on est là, que l'on existe, qu'on fait des choses. On veut le montrer dans le monde, les réseaux sociaux, sa page Facebook. On peut mettre tout ce qu'on fait. Il faut que beaucoup de monde le sache, ce qu'on fait. Ça, c'est la mentalité de ce monde. Mais dans le royaume de Dieu, il n'en est pas ainsi. C'est pour ça que des fois, ça rebute. Dans le royaume de Dieu, il n'en est pas ainsi. C'est même tout à fait l'inverse dans le royaume de Dieu. Par exemple, Jésus dira dans Marc au chapitre 10, verset 42, « Jésus les appela, parce que aussi les disciples, là, les apôtres, ils voulaient aussi, il y avait un esprit de compétition, ils voulaient savoir qui était le plus grand. Jésus dit, mais vous faites complètement fausse route. Dans le royaume de Dieu, il n'en est pas ainsi. Donc il les appela et dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme des chefs, des nations, les tyrannisent, et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de nous, au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » C'est fort. C'est fort, mais c'est Jésus, c'est l'enseignement du Seigneur. Pourquoi ça coince? Les gens ont du mal, sont réticents, et même au milieu des églises sont réticents. Parce que bien, c'est plus la loi de ce monde, c'est plus la loi de la chair, de l'homme qui veut dominer, qui s'élève, comme nous l'avons vu dimanche, pour s'élever jusqu'à être au niveau de Dieu. C'est ça la mentalité de ce monde, mais dans le royaume, c'est complètement différent. Il y en a un qui est grand, c'est Jésus. Et il n'y en a qu'un. Et tous, nous sommes des serviteurs. Nous sommes, le mot réellement, ça fait, Chignon dit, ah, c'est pas possible. Mais le mot, c'est esclave. Le mot, c'est esclave. Si vous prenez dans le grec, c'est esclave. Doulos, ça veut dire esclave. On le traduit par serviteur. Ça adoucit un peu, mais c'est esclave. Jésus, dans Philippiens au chapitre 2, quand il est dit qu'il s'est abaissé jusqu'à être un serviteur, le mot, c'est esclave. C'est fort, mais c'est la mentalité du royaume de Dieu. Nous le faisons, comment? Ah, je vais être un esclave, je vais être un serviteur. Non, nous le faisons avec joie, parce que nous voulons honorer notre chef, notre maître, notre sauveur, notre Seigneur. Nous voulons l'honorer, et c'est un honneur de le servir. C'est un honneur d'être à son service, mais c'est un service volontaire, c'est par amour, en retour de ce qu'il a fait pour nous à la croix du calvaire. La croissance biblique, c'est Christ en nous et c'est Christ qui grandit en nous. Toute la parole parle de croissance, comme la plante est appelée à croître et à porter du fruit. Mais il faut lui apporter les soins nécessaires. Alors pour nous, les soins nécessaires, c'est bien sûr obéir sans condition à la parole. On a du mal, des fois, à obéir à la parole. Vous et moi, je n'ai pas de crainte de me tromper, mais nous sommes tous logés à la même enseigne. On a du mal. On obéit facilement à ce qui nous est familier, ce qu'on peut facilement. Mais il y a des choses qui contrarient notre être intérieur, la chair, qui contrarient, et on a du mal. Mais il faut de plus en plus céder, plier le genou, nous abaisser et dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais j'obéis. Je ne sais pas vraiment, Seigneur, moi je ne suis pas capable, mais j'ai besoin de ton esprit, mais j'obéis, je suis déterminé à obéir. » Ça, c'est les soins à porter. Il y a également « laisser le Saint-Esprit nous convaincre et nous purifier ». Ça, c'est les soins qui sont apportés à notre cœur, à cette plante qui va porter du fruit. Alors le processus de sanctification se poursuivra et poursuivra son œuvre en chacun d'entre nous. À la fin de la deuxième épître, dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18, Pierre dira « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. » Amen. Aujourd'hui, ce soir, nous devons être meilleurs que hier. Et moins bien encore que demain. Donc, il y a du travail effectué par le Seigneur. Et il doit en être ainsi dans notre vie, c'est pas facile, sinon on aurait des chrétiens de partout, mais c'est pas facile. Mais le Seigneur nous aide. Quand on est de bonne volonté, docile, le Seigneur va nous aider. Alors demain, nous serons meilleurs qu'aujourd'hui. Et pour ce faire, il nous faut croire que le Seigneur est bon. Il est dit, si vous avez goûté combien le Seigneur est bon, est-ce que nous croyons que Dieu est bon ? On le chante, c'est vrai. On le dit, c'est vrai. Mais quand dans nos vies, ça ne se passe pas comme on voudrait, est-ce qu'on dit toujours Dieu est bon ? Je ne sais pas. Quand nous sommes, quand ça va complètement à l'envers de ce que nous avions pensé, est-ce que nous disons toujours Dieu est bon ? Mais moi je crois que le Seigneur tient non seulement l'univers dans ses mains, qu'il tient l'Église dans ses mains, mais qu'il tient nos vies aussi dans ses mains. Dans les moindres détails, Dieu ne se trompe pas. Dieu sait ce qu'il fait. Et quand nous lui faisons confiance, il va nous conduire. Et vous savez, quand nous traversons les moments tellement difficiles, il faut que ça nous serve pour que nous puissions nous-mêmes être humiliés, brisés. Ça, c'est la chair. Que la croix soit plantée dans notre cœur et qu'il y ait une œuvre bénie qui se fasse. Le Seigneur, en tous les cas, veut le faire pour chacun d'entre nous. La souffrance a du sens avec Dieu. La persécution a du sens avec Dieu. Les épreuves ont du sens avec Dieu. La vie chrétienne, c'est pas quand tout va bien, voilà, je loue mon Seigneur, quand ça va pas, voilà, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Quoi qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il fasse vent, je sais que ma vie est entre les mains de Dieu. Et il est digne de recevoir la louange. Quand on le loue, on lui dit, mais Seigneur, voilà, je t'aime. Je t'aime dans les beaux jours, je t'aime dans l'orage, je t'aime dans la tempête, je t'aime, Seigneur, dans l'épreuve, je continue à te faire confiance, parce que ma vie, je sais que tu la conduiras jusqu'au port désiré. Que Dieu soit béni. Il nous faut croire que le Seigneur est bon, que son plan et ses projets sont bons pour nous, même quand nous traversons les difficultés, l'adversité, l'opposition. Nous ne voulons pas nous braquer contre Dieu, mais au contraire, le laisser encore nous transformer à sa ressemblance. Il faut passer par là, par le brisement, il faut passer par là, parce que la chair, elle prend trop de place, et le Seigneur veut vraiment, passer pour que nous puissions porter du fruit. Quand nous voyons la taille d'un arbre fruitier, vous avez certainement vu quand un arbre est grand, les branches sont grandes, et quand on va le tailler, quand on voit quelqu'un tailler, à la fin on dit, mais il ne reste plus rien. Mais qu'est-ce qui va devenir cet arbre ? Il n'y a que des bouts de branches comme ça. Et quelques mois plus tard, un bel arbre, du fruit, mais il fallait le tailler. Il fallait passer par là. Et même si on aurait dit, mais cet arbre, il ressemble plus à rien, il n'y a plus rien, il est vide, si on ne s'y connaît pas, on se dit, mais il est massacré cet arbre, c'est fini. Et puis, 4-5 mois après, hop, les feuilles, les fruits, les fleurs, les fruits, et nous voyons de beaux fruits, mais il fallait le tailler. Il fallait. Et Jésus nous l'a enseigné dans Jean au chapitre 15, on ne va pas le lire, mais vous le connaissez. Donc il faut que la vigne soit taillée et que tout sarment qui ne porte pas du fruit soit coupé et jeté au feu afin que la sève puisse circuler et que la vigne puisse produire du fruit. Nous le voyons. Et une fois le travail terminé, combien c'est beau. C'est beau de voir ce que la nature, Dieu, est en train de faire. Il porte des fruits excellents. L'apôtre Paul dira dans Galates au chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié, j'ai été comme anéanti dans la chair, mais la vie de Dieu s'est manifestée En moi, la vie de Dieu a pris place, et nous savons, quand nous lisons ces épîtres, combien Paul était rempli du Saint-Esprit. Mais quand nous voyons par où il est passé, je ne sais pas si ça vous est arrivé de mettre aligné tout ce que Paul a subi. Si vous le faites, à un moment donné, vous écrivez, ou je ne sais pas, dans toutes ces épîtres, enfin dans les Corinthiens surtout, et vous voyez par où il est passé. On se dit, mais comment un homme peut supporter ce qu'il a supporté? C'est inimaginable. Et pourtant, comment un homme a pu recevoir des révélations comme il a reçu? Comment un homme peut être rempli du Saint-Esprit comme l'apôtre Paul a été rempli? Comment a-t-il pu être inspiré au point d'écrire ce que Dieu a voulu qu'il écrive? Vous savez que les 13 épîtres que Paul a écrites, et toute la parole, est inspirée de Dieu et utile. Toute la parole a été inspirée. Moi je me dis, mais c'est glorieux, c'est miraculeux. Nous, 20 siècles après, on est bénis au travers des Écritures, au travers des lettres de Paul, mais lui, combien il a subi de choses pour être un instrument entre les mains de Dieu, être sensible à l'Esprit de Dieu pour écrire les épîtres qu'il a écrites, et elles nous font du bien aujourd'hui, elles fortifient, elles nous encouragent, et ce soir je l'espère que nous soyons encouragés et bénis au travers de toute notre vie, de ce que nous traversons, de ce que, eh bien, que nous soyons bénis parce que, eh bien, Christ, eh bien, a en réserve de grandes choses encore pour chacun d'entre nous. En étant dans ce processus spirituel, en étant entré, vous voyez les 6 verbes, on aurait pu aller, mais juste j'ai effleuré là, mais en étant dans ce processus spirituel, nous allons pouvoir être utiles. Le Seigneur va pouvoir se servir, nous allons pouvoir être en bénédiction, nous allons pouvoir nous édifier et édifier l'Église. Et c'est là où il dit « Approchez-vous ». Et je termine par là, je n'irai pas trop loin dans ce verset 4, mais « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Approchez-vous, pierre vivante. Alors, nous nous souvenons que quand Jésus a rencontré Pierre, qui ne s'appelait pas Pierre, mais qui s'appelait Simon, quand Jésus l'a rencontré, ou plutôt quand Simon a rencontré Jésus, nous avons ce verset dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 41. Ce fut lui, qui rencontra le premier, son frère Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Ça, c'est bon de conduire quelqu'un vers Jésus. Il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Waouh, Pierre. Et là, il parle de Pierre lui aussi. L'image, c'est beau. Pierre, il a dit, tu ne seras plus appelé Simon, mais Pierre. Alors cette Pierre que Jésus a choisie, quand il a regardé Simon, il y avait un regard bien sûr prophétique. Jésus l'a regardé, mais pas seulement dans ce qu'il était à ce moment-là, mais Jésus l'a regardé avec la projection prophétique de ce qu'il allait faire de cette pierre rude, de cette pierre massive, ce que Jésus allait en faire. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Et combien il a été modelé, façonné, la pierre a été certainement arrangée, polie, etc., pour qu'il devienne le serviteur utile qu'il est devenu. Il était brut de décoffrage, et ensuite, eh bien, Jésus, de cette pierre, il en a fait une pierre vivante. C'est beau ce que le Seigneur est capable de faire avec chacun d'entre nous. Avec chacun d'entre nous, il est capable de nous tailler, de nous façonner, de nous polir, et afin que nous soyons utiles, afin que nous puissions, la parole de Dieu puisse l'emporter, qu'il puisse tailler les prétentions, la suffisance. Pierre était suffisant, il avait de la prétention. Eh bien, le Seigneur a permis, au travers de diverses épreuves, et nous le savons, nous l'avons lu dans la parole de Dieu, il en a fait un serviteur utile. Mon frère, ma sœur, nous sommes ce que nous sommes, Mais le Seigneur veut nous prendre là où nous sommes et nous amener à nous façonner, à permettre certaines circonstances qui vont épurer, qui vont tailler, qui vont peut-être briser, nous humilier, afin que son œuvre puisse se faire et que Christ soit glorifié et que nous puissions devenir aussi ce que le Seigneur veut, des pierres vivantes. Alors nous le verrons, une pierre, c'est massif, c'est, prenez une pierre, il n'y a rien de vivant là-dedans, dans une pierre. Et on le verra, mais une pierre, on aurait pu choisir autre chose pour employer le terme « vivant ». Mais une pierre, par définition, voilà, si elle est seule au bord du chemin, elle ne sert à rien. C'est uniquement une fois qu'elle est taillée, une fois qu'elle est placée comme il faut, avec d'autres pierres, ça peut construire un mur, ça peut construire, on peut construire un pont, on peut construire une maison en pierre, on peut construire des tas de choses sur le plan humain. Mais Jésus, l'apôtre Pierre, de la part du Seigneur inspiré, dit « pierre vivante ». Et nous verrons ensemble eh bien, l'identité de Christ, notre identité dans ce texte et l'identité de l'Église, afin que ces choses glorieuses, elles nous transportent. Quand nous les lisons, quand nous méditons, quand nous approfondissons, on ne peut que louer le Seigneur, on ne peut que s'exprimer et dire « Seigneur, mais qui nous sommes pour que tu nous aies choisis ? Qui nous sommes pour que tu nous aies élus ? Tu aies porté tes regards sur nous ?» Et plus loin, nous voyons, c'est grandiose ce que le Seigneur fait, ce qu'il veut faire, ce qu'il va faire. Et vous savez, le Seigneur réussit. Son plan, il réussira, avec nous ou sans nous, mais son plan, il réussira. Ce que Dieu a décidé de faire, il le fera. Malgré l'opposition, malgré les puissances de ténèbres, la Bible dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église de Jésus-Christ. Alors, le Seigneur veut faire une œuvre glorieuse, merveilleuse. Alors, au lieu de nous attarder sur nous, sur ce que nous voudrions être, ce que nous n'avons pas, ce que nous voudrions avoir, regardons déjà ce que nous avons reçu en Christ. Et la liste est longue de ce que nous avons reçu en Christ, et nous allons le louer, plus nous réaliserons ce que nous avons reçu, ce que nous sommes en lui, et plus nous allons le louer, le célébrer. Que le Seigneur nous bénisse, on va prier, demander sa grâce, son secours. En tous les cas, ça termine en disant « Vous avez obtenu miséricorde ». Et cela, eh bien, que nous repartions dans la voiture et que nous puissions dire « Seigneur, mais c'est grand ce que tu as fait, c'est tellement grand. Mais qui je suis pour que tu m'aies choisi, pour que tu aies posé tes regards sur moi ? Qui je suis ? Il y a des millions et des millions qui ne sont pas sauvés. Pourquoi, Seigneur, tu as posé tes regards ? Et louons-le tout simplement, on ne peut pas comprendre bien sûr, mais on loue le Seigneur. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons. Ce que Pierre a essayé de faire au travers de cette lettre inspirée pour ces chrétiens dispersés, pour ces chrétiens persécutés, eh bien, il a cherché à les amener à regarder à Christ. Seigneur, ce soir, eh bien, nous aussi, nous sommes encouragés de savoir que tu as posé tes regards sur nous. Nous sommes les pierres vivantes choisies par Dieu, choisies par Dieu. Oui, Seigneur, merci. Merci de ce que tu as posé ton regard sur nos vies. Ah, Seigneur, et que tu continues à poser tes regards, Seigneur, et tu continues à nous façonner, et tu veux poursuivre ton œuvre pour que nous soyons des pierres vivantes qui nous édifions en Christ et qui édifions ton peuple. Merci, Seigneur. Merci de bénir chacun, les familles que nous représentons, Seigneur. Nous voulons te célébrer dans nos maisons, Seigneur. Nous voulons que ta parole soit à l'honneur dans nos maisons. Nous voulons, Seigneur, te dire combien nous t'aimons, mais tu nous as aimés le premier, Seigneur. Merci de nous conduire dans cette soirée, de nous raccompagner, et qu'à ton nom seul soit toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen.